France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Nicolas Sarkozy n'est plus ce soir un ancien président en prison. La cour d'appel de Paris l'a libéré sous contrôle judiciaire. Parmi les conditions exigées pour cette remise en liberté, l'interdiction de voir Gérald Darmanin, un véritable camouflet pour le garde des Sceaux. En attendant l'hypothétique budget 2026, le gouvernement a tenu son objectif budgétaire cette année. Comme prévu, le déficit public a été contenu à 5,4% du PIB, le produit intérieur brut. Se lamenter n'est pas une stratégie, affirme le patron de l'ONU Climat, Simon Steele. Alors que le réchauffement climatique est en train de franchir la barre des 1,5 degrés, Simon Steele s'exprimait lors de l'ouverture de la COP30 à Belém au Brésil. La crise à la BBC après la démission de deux hauts responsables du groupe, le géant britannique de l'audiovisuel public est dans la tourmente après la diffusion d'un montage déformant les propos de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole. Nicolas Sarkozy est un homme presque libre ce soir. Après 20 jours derrière les barreaux, l'ancien président est sorti de la prison de la Santé à Paris en début d'après-midi avant de regagner son domicile parisien, la Villa Montmorency. Si la cour d'appel de Paris l'a remis en liberté, elle a assorti cette libération d'un contrôle judiciaire très strict. Rappelons que Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. La justice estime qu'il a sciemment laissé ses collaborateurs demander de l'argent au régime de Muammar Kadhafi. Voyons avec vous, Florence Turm, les conditions imposées à l'ex-chef de l'État pour sa libération.
Une décision sans surprise, elle correspond à la fois à la demande de la Défense et du ministère public qui avait également requis un contrôle judiciaire. La Cour estime qu'il est bien nécessaire, elle va y adjoindre un certain nombre d'interdictions, celle de quitter le territoire national, d'entrer en contact avec les autres prévenus et les autres témoins de cette affaire, une procédure pour subornation étant toujours en cours. Nicolas Sarkozy a par ailleurs déjà été condamné définitivement pour corruption active dans une affaire où un avocat général de la Cour de cassation a été mise en cause, rappelle le président, et ce sera la dernière interdiction, sans doute la plus symbolique, celle d'entrer en contact avec le ministre de la Justice en exercice et les membres de son cabinet. On s'en souvient, Gérald Darmanin est allé lui rendre visite en prison le 29 octobre dernier. Sur l'écran de la visioconférence, Nicolas Sarkozy se contente d'un hochement de tête, d'un « je vous remercie » et son avocat, Christophe Ingrin, d'une courte déclaration à la sortie de la salle.
Cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. Notre travail maintenant, à Nicolas Sarkozy et à nous, c'est de préparer cette audience d'appel.
Le procès en appel devrait avoir lieu à compter du mois de mars 2026. D'ici là, Nicolas Sarkozy a encore un autre rendez-vous avec la justice. Le 26 novembre prochain, la Cour de cassation doit se prononcer sur le pourvoi qu'il a formé contre sa condamnation pour financement illégal de campagne électorale dans le dossier Big Malion.
Arrêtons-nous à présent sur la mesure la plus symbolique de ce contrôle judiciaire, comme nous le disait Florence Turm à l'instant, l'interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice avait suscité la colère de nombreux magistrats en allant voir Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir Stanislas.
La décision de la Cour d'appel résonne comme un camouflet pour Gérald Darmanin qui est resté proche de Nicolas Sarkozy.
Disons que cette interdiction faite à Nicolas Sarkozy de rencontrer Gérald Darmanin est en réalité tout autant une interdiction faite à Gérald Darmanin de rencontrer Nicolas Sarkozy. Car Gérald Darmanin, vous l'avez dit, avait rendu visite à l'ancien président de la République le 29 octobre dernier, 8 jours après son incarcération. Cette visite, le garde des Sceaux l'avait annoncée, avant même que Nicolas Sarkozy soit conduit à la prison de la Santé, ce qui lui avait valu les récriminations de nombreux magistrats, et en particulier de l'un des plus éminents d'entre eux, le procureur général près à la Cour de cassation, Rémy Heitz. C'était le 21 octobre sur France Info.
L'objectif pour tous, ce doit être la sérénité. Ce que je dis, c'est que il y a un risque, en effet, qu'une telle visite soit ressenti par les magistrats et soit perçu par l'opinion comme une forme d'obstacle finalement à cette sérénité recherchée. Je ne parle pas de désaveu, je parle de risque d'obstacle à la sérénité et de risque donc d'atteinte à l'indépendance des magistrats dans un dossier aussi sensible.
Éviter un risque d'obstacle à la sérénité des débats et un risque d'atteinte à l'indépendance des magistrats, ce sont précisément les motivations émises par la Cour d'appel de Paris aujourd'hui pour justifier l'interdiction faite à Nicolas Sarkozy de rencontrer le garde des Sceaux. Elle a repris mot pour mot la critique émise il y a 3 semaines par Rémi Hetz à l'encontre de Gérald Darmanin. La Cour d'appel s'est permis d'ajouter que Nicolas Sarkozy avait été définitivement condamné pour trafic d'influence dans l'affaire Bismuth et qu'il avait montré sa capacité à actionner les différents services de l'État. Ce sont donc bien les deux hommes qui sont visés par cette interdiction, Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin ou tout membre de son cabinet susceptible de lui faire bénéficier d'informations sur les procédures le concernant, indique l'arrêt de la Cour d'appel.
Stéphane Robert, merci. Parmi les réactions ce soir à la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez salue une décision juste et digne, à la hauteur de l'homme qui a tant donné à notre pays, ajoute le patron des députés, les Républicains. À gauche, dès hier, François Ruffin avait affirmé que Nicolas Sarkozy devait rester en prison. Comme le dit le tribunal, c'est un crime contre la nation qu'il a commis, martèle le député de la Somme. Enfin, Ségolène Royal, rivale malheureuse de Nicolas Sarkozy en 2007, considère que la meilleure sanction aurait été l'inversion des résultats de la présidentielle et donc son élection à l'Élysée, puisqu'il y a eu, selon l'ancienne candidate socialiste, tricherie financière. Alors que la bataille du budget 2026 se poursuit à l'Assemblée, le gouvernement se targue d'un bon résultat pour le budget de cette année. Le projet de loi de fin de gestion de l'exercice budgétaire 2025 a été présenté ce matin au Conseil des ministres et il révèle l'absence de dérapage. Le déficit public sera bien contenu à 5,4% du PIB comme prévu. Nous sommes sur les rails, se félicite Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
Une lecture détaillée de ce projet de loi de 180 pages montre de grandes variations, Marie, entre les estimations et ce qui a été réalisé jusqu'à présent.
Oui, à commencer par les recettes de TVA qui sont inférieures de 5% à ce qui avait été prévu dans la loi de finances initiale. Cela représente 5 milliards d'euros en moins et cela se confirme donc, les Français et les Françaises freinent leur consommation. A contrario, l'impôt sur les sociétés aurait rapporté 5 milliards 200 millions d'euros de plus. Alors je parle là au conditionnel car les entreprises ont un cinquième acompte à verser en décembre et cela peut modifier ce qui n'est encore qu'une projection. Autre recette plus importante que prévue, et là c'est du réel, celles qui proviennent des amendes administratives, notamment venant de l'autorité de la concurrence. Alors un projet de loi de finances de fin de gestion n'est pas un projet de finances rectificatif, il est donc censé se limiter à des ajustements. Au final, il prévoit tout de même un tour de vis de 4 milliards d'euros, quasiment pour moitié pour la mission France 2030. Qui aide et accompagne les entreprises dans leur transition et leur innovation, mais aussi pour la mission Travail-Emploi, qui voit ses crédits rabotés de 800 millions d'euros. L'enseignement supérieur suit, avec 250 millions d'euros de crédits qui avaient été gelés et seront donc annulés. En regard, il y a aussi eu des dépenses en plus pour le ministère de la Défense, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, mais au final, les économies restent plus élevées que attendues, grâce aux intérêts de la dette, 3 milliards d'euros de moins que prévu. Alors comme dans sa nature même, ce projet de loi ne change pas substantiellement le budget voté, le gouvernement peut espérer que son examen et son vote soient une formalité, même s'il n'en est rien en ce moment. Il sera en tout cas présenté lundi prochain aux députés.
Explication signée Marie Viennot. Il est désormais presque inévitable que le réchauffement climatique dépasse 1,5 degré à court terme, affirme le président du GIEC, Jim Ski. Le patron des climatologues mandaté par l'ONU s'est exprimé tout à l'heure à l'ouverture de la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat à Belém au Brésil. 1,5 degré, c'était l'objectif de l'accord de Paris il y a tout juste 10 ans. Alors, faut-il pour autant rendre les armes? Certainement pas, estime le chef de l'ONU Climat. Mais pour Simon Steele, il y a urgence à agir pour inverser la tendance.
Je ne vais pas vous mentir, il nous reste beaucoup à faire. Nous devons avancer beaucoup, beaucoup plus vite. Se lamenter n'est pas une stratégie. Nous avons besoin de solutions. se quereller alors que les famines s'installent, forçant des millions de personnes à fuir leur pays, ne sera jamais pardonné, car les conflits se propagent. Alors que les catastrophes climatiques déciment la vie de millions de personnes, alors que nous avons déjà les solutions, cela ne sera jamais, jamais pardonné. À Belém, nous devons concilier le monde des négociations avec les mesures nécessaires dans l'économie réelle. Ceux qui choisissent de ne pas participer, qui avancent à petits pas, seront confrontés à la stagnation de leur économie, tandis que d'autres économies progressent à grands pas. Mes amis, soyons clairs. Dans cette arène de la COP30, votre travail n'est pas de nous battre les uns contre les autres, mais de lutter ensemble contre cette crise climatique. Mes amis, nous devons nous battre vaillamment pour obtenir davantage. Je vous remercie.
Simon Steele, le chef de l'ONU Climat, à la tribune de la COP30 à Belém, propos recueillis par Véronique Robérotte. Parmi les pays jugés responsables du réchauffement climatique, la Chine est régulièrement pointée du doigt, car elle reste le premier pollueur de la planète. Et pourtant, la Chine est aussi la championne des énergies renouvelables. En 10 ans, les Chinois ont multiplié par 4 leurs installations d'éoliennes et de panneaux solaires. La Chine qui vient de battre un nouveau record en la matière avec l'éolienne marine, la plus puissante au monde. Le reportage de notre correspondant Sébastien Berriot dans la province du Shandong.
Sur les quais de ce grand port, situé sur la mer de Borai, juste en face de la Corée du Nord, les regards sont attirés par une éolienne géante qui donne presque le vertige lorsqu'on lève les yeux vers le ciel. Sa hauteur équivaut à un immeuble de 50 étages. C'est une fierté pour l'entreprise publique chinoise qui l'a conçue. 26 mégawatts, jamais une telle puissance n'avait été atteinte pour une seule éolienne marine. Yang Senlin est l'un des responsables du projet.
Cette éolienne offshore est actuellement la plus grande au monde en termes de capacité unitaire et de diamètre du rotor. Celui-ci dépasse les 310 mètres. La surface balayée par le rotor équivaut à 10 terrains de football. À pleine capacité, cette éolienne est capable à elle seule de répondre aux besoins annuels en électricité d'environ 55 000 habitants.
Deux turbines de ce type, cela équivaut à un parc de 33 éoliennes. Et si en Europe, les installations en mer prennent beaucoup de temps, ici en Chine, les autorisations sont données beaucoup plus vite.
Le processus d'approbation est une question très technique, mais le gouvernement chinois soutient fortement le développement de l'énergie éolienne offshore. Et donc le processus d'approbation est relativement facile.
Il reste encore 6 mois de tests avant la mise en service de cette éolienne géante dans la mer de Borai, un secteur qui illustre la volonté de la Chine d'innover dans les énergies renouvelables. Tout près du même port, à 8 km au large, se trouve le parc solaire le plus puissant au monde en milieu marin. Li Shengwei est le directeur du parc.
Le nombre total de panneaux photovoltaïques dans notre parc solaire offshore est de 3000, avec une capacité de 1 gigawatt. Cela va permettre d'alimenter en électricité 40 000 foyers chaque année. Avec ce genre d'installation, je suis sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs de pic carbone et de neutralité carbone.
Un autre parc solaire en mer, 2 fois plus grand, est déjà en construction un peu plus au sud, dans la province du Jiangsu. Après avoir couvert ses déserts de panneaux photovoltaïques, la Chine veut désormais faire la même chose sur son littoral.
Sébastien Berriot, correspondant de France Culture en Chine. Au Mali, les djihadistes qui cherchent à s'emparer de tout le pays n'ont pas hésité à exécuter une influenceuse, une jeune femme très présente sur le réseau TikTok. Elle a été enlevée et fusillée en public, selon plusieurs sources dont sa famille, qui confirme la terrible information. Mariam Cissé vivait à Tonka, dans la région de Tombouctou. Elle avait plus de 90 000 abonnés sur la plateforme chinoise et c'était insupportable pour les djihadistes présumés qui l'ont éliminée. Nathanaël Charbonnier.
Les djihadistes s'en sont pris à Mariam Cissé, jeune malienne âgée d'une 20aine d'années, dont la seule erreur est d'avoir filmé son quotidien sur l'application TikTok. Ici, on peut la voir s'amuser avec une amie, le corps plongé dans le fleuve Niger. Ici, on peut la voir faire des grimaces devant un mur en écoutant un morceau de musique. Une vie d'adolescente volée par des djihadistes qui quadrillent presque l'ensemble du pays. La jeune Mariam habitait la ville de Tonka au Nord Mali, 50 000 habitants, où les terroristes semblent aller et venir avec une incroyable facilité. Mais on sait qu'ils se trouvent aussi dans le sud Mali, où ils imposent depuis le mois de septembre blocus à la capitale Bamako. Une vie d'adolescente volée par des djihadistes qui dictent aussi leurs lois sur tout le territoire ou presque. Dans le cas présent, la jeune Mariam a été fusillée car soupçonnée d'informer l'armée malienne. Mais les djihadistes ont récemment émis également des règles pour les voyageurs. Ils exigent le port du voile pour les femmes et leur séparation des hommes dans les transports urbains.
Nathanaël, la situation est aujourd'hui très incertaine au Mali avec plusieurs discours qui se percutent.
Oui, la question est de savoir où va le Mali entre d'un côté les appels à fuir le pays le plus rapidement possible lancés par les pays occidentaux dont la France qui laisse craindre un effondrement de la junte au pouvoir et de l'autre le discours rassurant des autorités qui annoncent aujourd'hui la reprise des cours à Bamako et dans plusieurs villes du pays. Il est difficile d'y voir clair. Ce qui est certain, c'est que la junte au pouvoir, depuis 2020, même avec le soutien des Russes de l'organisation Africa Corps, perd du terrain et peine à endiguer les attaques djihadistes sur le terrain. Sans compter que oui, les cours ont peut-être repris à certains endroits, mais pas partout. Et que oui, du carburant est arrivé à Bamako, mais que les pénuries continuent.
Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de Radio France. Au Royaume-Uni, la BBC a perdu de sa superbe ce soir après la démission de son directeur général Tim Davy et de sa patronne de l'information Deborah Turnus. Le géant de l'audiovisuel public britannique est mis en cause pour le montage d'un discours de Donald Trump lors de l'assaut contre le Capitole en janvier 2021. Un montage où celui qui vient de perdre la présidentielle américaine semble demander à ses partisans de marcher sur le Congrès pour se battre comme des diables. Or, cette dernière expression correspondait à un autre passage du discours de Trump. L'actuel président américain qui menace la BBC d'une plainte à 1 milliard de dollars. À Londres, le président de la BBC a présenté les excuses du groupe et reconnu une erreur de jugement dans un courrier adressé à la présidente de la Commission parlementaire de la culture et des médias. Gaëlle Joly nous appelle de Londres.
Dans ce courrier, Samir Shah reconnaît que la manière dont le discours a été monté a donné l'impression d'un appel direct à l'action violente. La BBC souhaite s'excuser pour cette erreur de jugement, écrit son président, qui promet également de renforcer le contrôle du respect des règles éditoriales au sein du groupe. Alors que Donald Trump a qualifié les journalistes de la BBC de corrompus et de malhonnêtes, la patronne de l'information, Deborah Turnus, qui a démissionné hier, a défendu ses équipes ce matin. Je tiens à préciser une chose. Les informations la BBC ne sont pas biaisées sur le plan institutionnel. C'est le fournisseur d'informations le plus fiable au monde. Nos journalistes sont des gens assidus qui recherchent l'impartialité. Des erreurs sont commises, mais il n'y a aucun biais institutionnel. Alors que la classe politique britannique a quasi unanimement fustigé la BBC, le Premier ministre britannique Keir Starmer a pris la défense de l'institution. Le gouvernement britannique soutient une BBC forte et indépendante qui a un rôle vital dans une ère de désinformation, assure son porte-parole, soulignant qu'elle devait maintenir une haute qualité et corriger ses erreurs rapidement.
Gaëlle Joly, correspondante au Royaume-Uni. Y aura-t-il des auteurs de bandes dessinées au prochain festival de BD d'Angoulême en janvier? La question, a priori saugrenue, se pose ce soir après la multiplication ce week-end des appels au boycott de l'édition 2026. Plusieurs syndicats de la profession sont vent debout contre l'association propriétaire du festival et sa décision, actée samedi, de confier la future direction à un binôme. D'un côté, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, et de l'autre, la société privée 9e Art Plus, un irritant pour de nombreux auteurs et éditeurs. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, plusieurs syndicats font monter la pression et s'adressent aux financeurs publics du Festival d'Angoulême.
Oui, dans une lettre ouverte adressée à la ville d'Angoulême et au département, notamment pour leur demander de s'opposer à ce projet de gestion. La déléguée générale du syndicat national des auteurs et des compositeurs, Maya Ben-Simon, pointe du doigt l'appel à projet qui a permis de faire émerger ce scénario de gouvernance. Une procédure truffée de dysfonctionnement, dénonce la syndicaliste.
L'appel à projet s'est fait dans des conditions n'apportant aucune garantie de sérénité aux auteurs et aux autrices. Il y a eu, pendant les 6 derniers mois, stratégie dilatoire, opacité, revirement brusque, la coupe elle est pleine. Le festival aujourd'hui, c'est un bien commun. Et aujourd'hui, voilà, on dit on en a marre.
Mais c'est surtout la reconduction de la société privée 9e Art Plus qui ne passe pas chez les syndicats. Ils dénoncent sa gestion financière occulte, mais aussi le licenciement en 2024 d'une salariée. Elle venait de porter plainte pour un viol survenu en marge du festival. Des faits rapportés par l'Humanité Magazine, une information judiciaire est depuis ouverte. Face à ces polémiques, les financeurs publics étaient jusqu'alors plutôt restés en retrait. Mais maintenant que l'appel à projet est terminé, le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, exige des garanties.
qu'est-ce que veut dire, évidemment, faire collaborer les deux structures ensemble? Et puis, des questions sur le devenir de la société 9e Art Plus. Qui a sa tête? Qui, dans le portage des parts? Tout ça nous intéresse.
Sans quoi la mairie et les autres financeurs publics menacent de reprendre à 100% le contrôle du festival. C'est l'argument qu'ils brandiront vendredi lors de la prochaine réunion entre les partenaires.
Jeanne Serrin, merci. Un mot du temps demain, calme et ensoleillé en général, mais les brouillards matinaux seront nombreux de la Normandie à la basse vallée du Rhône. Demain matin, il fera entre 2 et 11 degrés. Les maximales l'après-midi sont en hausse de 13 à 20 degrés. Du nord au sud, c'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique. Paul Guigues.